Bonsoir, comment allez-vous? Connaissez-vous ce mot, la sérendipité? Je l'ai appris au petit bateau. C'est l'art de trouver ce que l'on ne cherche pas. La pénicilline ou la tartatin ont été découverts de cette manière. Eh bien, hier, en faisant du rangement à la maison, je rêvais, comme Augias, de détourner un fleuve pour qu'il traverse les écuries et embarque tout sur son passage. Au lieu de ça, j'ai employé une méthode plus classique et moins radicale. Prendre chaque chose et décider de la garder, de la donner ou de la jeter. Et si je la gardais, où allais-je la ranger? That is a very embarrassant question. J'avançais à moins deux à l'heure, tant les négociations avec chaque objet étaient laborieuses. Quand je tombais sur l'excellent dictionnaire Amoureux de la Chine de José Fraîche, édité chez Plon. « Toi, mon gros !» lui annonçais-je, « je t'ai déjà lu, je vais t'offrir à ma cousine Marina, ça va lui faire plaisir et moi, ça va me faire de la place. » Sauf qu'au moment de le placer dans la caisse départ, je l'ai ouvert au hasard, histoire d'en lire juste quelques mots en signe d'adieu. Je suis tombée, page 281, sur le mot « danser ». Les Chinois aiment passionnément danser. Le soir, pendant la belle saison, il n'est pas rare de voir des couples, généralement sur leur 31, valser en plein air au coin d'une rue ou sur une place. Au son de l'accordéon, ils adorent l'accordéon. En dansant, les Chinois témoignent en effet de l'importance qu'ils continuent à accorder à l'harmonie des gestes et des sons. On attribue en Chine au mouvement du corps des vertus à la fois corporelles et spirituelles. Oh, je vais le garder ce bouquin.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi les Chinois mangent-ils avec des baguettes.
Jean-Pierre Poulain, Louise vous demande ça et j'ai envie de rajouter ce qu'il y a que les Chinois.
Les Chinois, ils mangent des baguettes d'une certaine façon. C'est vrai que nous, quand on va au restaurant chinois, on prend une assiette, on met du riz, et là, on fait de l'équilibre avec une baguette.
On essaye de se fabriquer une fourchette avec des baguettes, c'est pour ça que ça ne marche pas bien d'ailleurs.
Et on s'en met partout.
Ouais.
Alors qu'en Chine, on va prendre le bol, on le lève, on l'amène près de la bouche, et les baguettes, on les fait tourner, et ça fait rentrer dans la bouche. Mais les baguettes, en fin de compte, c'est quoi? C'est une manière de distancier le corps et la nourriture. C'est la même fonction que la fourchette. Quand on mange avec des baguettes, on ne peut pas couper. Donc ça veut dire qu'il faut que le cuisinier ait tout coupé auparavant. Il y en a qui regardent l'histoire de l'alimentation d'une façon un peu évolutionniste, c'est-à-dire qui essayent de comprendre comment les choses ont bougé. En Europe, par exemple, on a mangé avec les doigts pendant longtemps. Puis on a eu les couteaux, les fourchettes, puis on a mis en scène le découpage avec des écuyers tranchants qui découpaient avec des armes. C'est un truc absolument extraordinaire. Et on mettait en scène ce par quoi l'aristocratie arrivait au sommet de l'État. En Chine, au Vietnam, en Asie, eh bien, ce processus-là d'accession au pouvoir a, plutôt qu'en Europe, été quelque chose qui s'est basé sur le mandarinat, c'est-à-dire sur des écoles dans lequel des enfants, après des compétitions, venaient apprendre les mathématiques et la poésie. Et les plus brillants allaient, en sortant de l'école, être dirigés vers l'appareil d'État. Ils allaient devenir militaires, ils allaient devenir des grands fonctionnaires. Et le repas qui évacue toute la violence, le repas chinois, c'est un repas qui peut apparaître comme plus raffiné encore que nos repas dans lesquels les couteaux, le découpage mettent en scène le résidu de ce qui fondait une société de cour et une société plutôt d'aristocrates chevaliers qui étaient des gens qui étaient des guerriers avant tout. En Inde, en Chine, il y a eu une spécialisation et une disjonction entre l'aristocratie et les militaires. Et on a une aristocratie de lettrés, de mandarin, qui n'a pas besoin d'utiliser et d'affirmer la violence comme un moyen d'accès au pouvoir et qui met en scène une égalité, une distance et un raffinement dans l'usage des baguettes. Mais il y a des usages très raffinés des baguettes qui consistent à prendre ce qui est dans le plat,
oui,
le porter sur le bol, retourner la baguette et manger avec... C'est un vrai balai. Très peu de monde sait faire ça. Si vous regardez manger des Chinois ou des Vietnamiens, ou parfois même des Japonais, ils prennent avec des baguettes dans le plat, puis ils s'arrêtent un peu comme ça sur le bol de riz, et ensuite ils mangent. Comme s'il y avait besoin de marquer une différence entre le collectif et l'individuel. Pour le Japon, la Chine, l'usage de la baguette, c'est une forme qui évacue la violence du côté de la cuisine. Vous savez qu'on mange très différemment avec des baguettes. Les Japonais, par exemple, n'utilisent jamais deux fois des baguettes qui ont déjà été utilisées. Quand un enfant naît, on lui offre des baguettes et il a ses baguettes. À la maison, il mange avec les siennes. Et dans tous les restaurants au Japon, on vous amène des baguettes neuves à chaque fois. D'ailleurs, c'est un grand problème.
Pour la forêt ?
Absolument. Pour la déforestation. Parce que tous les jours, les Japonais mangent beaucoup au restaurant. Et c'est quelque chose qui devra être révisé, peut-être. Alors que dans d'autres pays, au Vietnam, eh bien, la première chose que fait un Vietnamien quand il arrive au restaurant, il prend les baguettes, il sort le côté de sa chemise, il les essuie. Mmh. C'est des baguettes en plastique et il mange avec les baguettes. Tout ça, ça renvoie à des formes différentes du bouddhisme.
Jean-Pierre Poulain est professeur de socio-anthropologie à l'Université de Toulouse et il a dirigé un ouvrage collectif publié aux Presses universitaires de France, Dictionnaire des cultures alimentaires. Dans les petits bateaux, ce soir, vous entendrez Basile qui a demandé à Pierre Noël si les langoustes et les homards vivaient seuls ou bien en famille. Et Lorna a demandé à Pierre Schulz pourquoi parfois, quand on vit un moment, on a une impression de déjà-vu. Mais tout de suite, nous retrouvons la linguiste, parce qu'on dit bien linguiste et pas linguiste, c'est ce que m'a écrit un auditeur avisé, la linguiste Marie-Hélène Drivaud.
Bonjour, je m'appelle César, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi et comment on appelle le mâle de la souris et pourquoi on dit une souris même pour le mâle.
Bonsoir César, il a raison, une souris peut être un garçon, Marie-Hélène Drivaud.
Ah oui, c'est une très bonne question et elle pose un vaste problème qui est le problème du genre. Et en fait, il y a deux genres. Il y a le genre grammatical qui fait qu'un nom est masculin ou féminin, en français du moins, il peut y avoir du neutre aussi mais pas en français. Et le genre naturel qui concerne les humains, les animaux qui sont des êtres sexués. Et ces deux genres, le genre grammatical et le genre naturel, ne correspondent pas forcément. Et donc, on va dire une panthère, une souris, même si c'est un mâle. Et on va dire un dromadaire et un moustique, même si c'était une femelle. Donc, on est bien gêné. Et on a le même problème avec des mots qui désignent des humains, puisque la sentinelle, c'est un soldat et c'est souvent un homme. Oui. Et le mannequin, c'est plutôt une femme. Donc là aussi, on va avoir le même souci. Parce que ce genre grammatical, il est souvent arbitraire. Et d'ailleurs, les enfants ne font pas d'erreur de genre parce qu'on l'apprend en même temps. C'est intrinsèque au nom.
Et les étrangers ont beaucoup de mal.
Et oui, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas cet apprentissage justement en même temps que le nom.
Regardez Jane Birkin qui est quand même pas en France depuis la semaine dernière et qui fait d'ailleurs, ça fait partie de son charme, mais qui fait beaucoup d'erreurs de genre.
Oui, puis ça correspond pas d'une langue à une autre puisqu'on dit la lune en français, mais ça va être masculin en allemand. Amour des lycéens qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Ça peut varier aussi d'une région à l'autre, puisqu'on dit un platane au nord et une platane au sud. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, heureusement, pour les êtres, en général, le genre grammatical correspond au sexe. Je dis bien en général. Un garçon, une fille, tout va bien jusque-là. Mais pas toujours. Parce que les êtres sexués, justement, ont souvent un seul nom pour l'espèce et il est masculin ou féminin. Alors, lorsqu'on a un seul mot à notre disposition, il va falloir trouver une solution. Donc, on va dire des phrases, on va trouver une périphrase du genre « les moustiques femelles piquent ». Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Bon, pour les noms d'animaux, c'est un peu compliqué, parce que le féminin peut se former d'une manière très classique, comme on fait normalement, c'est-à-dire qu'on va dire un âne, une ânesse, un chameau, une chamelle, un chat, une chatte, c'est des féminins très réguliers.
Et puis un mot différent.
Mais oui, mais souvent, on a aussi un mot complètement différent, c'est-à-dire que c'est deux mots, c'est une opposition lexicale, le cerf, la biche, le coq, la poule, le singe, la guenon, c'est des mots qui ne sont pas de la même famille, qui n'ont rien à voir, mais heureusement, le mâle porte un nom masculin et la femelle un nom féminin. Puis il y a des cas aussi très compliqués, encore plus compliqués. C'est comme ça, c'est pas autrement, ça ne s'explique pas. Le genre fait partie du mot.
Un lexicographe, une lexicographe, donc Marie-Hélène Drivaud est une lexicographe au dictionnaire Le Robert. Pendant que je parle, j'en cherche d'autres, des exemples de mâles qui n'ont pas le même nom que la femelle. Le cheval, la jument, le sanglier, la haie, le lièvre, la hase, le bélier, la brebis, le jar, l'oie. Si vous en avez d'autres, ce sont les bienvenus. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. C'était Osier, un disque choisi par Jean-Baptiste Audibert. Merci. Vous savez que pour poser une question au petit bateau, oh, vous n'avez pas besoin d'être si enfant que ça. Il y a des grands enfants qui ont des questions pertinentes, mais en revanche, ce qu'il faut faire, c'est le bon numéro. 01 56 40 43 57. Et là, vous tomberez sur un répondeur.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je suis Basile. J'ai 8 ans et je voudrais savoir si les langoustes ou les homards vivent seuls ou bien en famille. Merci, au revoir.
C'est Pierre Noël, chargé de recherche au CNRS, qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle, qui va te répondre.
Oui, alors ça, c'est une question qui est intéressante et qui nécessite des connaissances sur la façon dont les animaux se groupent entre eux et fonctionnent entre eux. Alors, le homard, donc, c'est un animal marin qui a des très grosses pinces et qui est plutôt solitaire. Il va vivre dans des trous de rochers avec un petit peu de sable à proximité et il n'aime pas trop la compagnie. Bien sûr, monsieur et madame se rencontrent à un moment ou à un autre, mais ils sont plutôt un petit peu séparés, un petit peu dispersés et ils font des tout petits déplacements entre la saison froide et la saison chaude, on va faire, disons, aller 1 ou 2 kilomètres, un petit déplacement à la côte. C'est des bêtes d'eau froide plutôt. Les langoustes, au contraire, sont des bêtes plutôt d'eau chaude et qui aiment bien vivre en société, c'est-à-dire qu'elles vont se regrouper dans une même fissure, sous un même rocher. On peut avoir 3, 4, 5, 10 langoustes différentes à proximité immédiate et elles vont se déplacer, elles vont faire également des migrations et des migrations plus importantes, liées à la reproduction également et à la saison. Mais on a déjà observé, en plongée sous-marine, des processions de langoustes qui se suivaient à la queue leu-leu, comme ça, avec 50, 100 ou 200 langoustes qui se déplacent et qui descendent dans la mer profonde. Et les plongeurs ne peuvent plus à ce moment-là les suivre. À partir d'une cinquantaine de mètres, ça s'arrête, mais continuent leur procession. Il y a des films là-dessus qui montrent ça très bien.
J'ai l'impression que les animaux, en fait, quand ils se déplacent pour faire des grands voyages, c'est là qu'ils ont tendance à se réunir.
Oui et non. La biodiversité, c'est assez extraordinaire parce que tous les cas de figure existent. Ouais. C'est vrai que bon, pour les oiseaux et autres, les animaux ont tendance à se regrouper. Mais chez les crustacés, chez les crabes, les araignées de mer, langoustes et homards, quand il y a des déplacements, ça peut être groupé, ça peut être de façon individuelle. On peut avoir ce qu'on appelle des migrations, des déplacements erratiques, c'est-à-dire une promenade orientée ou pas. On a déjà marqué ou bagué, si vous voulez, des araignées de mer ou des tourteaux. Et on a pu montrer qu'ils pouvaient se déplacer de 50 km ou 100 km ou plus. Au nord de la Bretagne, par exemple, ça a été bien suivi. Et donc, c'est des animaux qui se déplacent lentement, certes, mais qui peuvent faire quand même des déplacements assez importants. Parce que pour ces petites bêtes-là, qui marchent tout doucement sur le fond de la mer, faire 100 km, c'est quand même quelque chose.
Ça, c'est le coup du lièvre et de la tortue. Hein. C'est pas parce qu'on marche pas vite que... On ne peut pas assurer. Pierre Noël a complètement raison. Un autre Pierre, psychiatre cette fois-ci, Pierre Schulz, qui a écrit un livre qui a un titre absolument merveilleux, La consolation par le chien, et c'est édité aux Presses universitaires de France.
Bonjour, je m'appelle Lorna, j'ai 11 ans, et je voudrais savoir pourquoi est-ce que des fois, quand je vis un moment, eh ben, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu avant ou vu. Au revoir.
Alors, la question de l'origine de cette impression n'a pas de réponse. En fait, les scientifiques travaillent sur cette idée-là depuis longtemps, mais pour le moment, on n'a que des hypothèses. Alors, c'est des hypothèses qui tournent autour d'une chose qu'on appelle la familiarité. C'est un peu différent d'un souvenir. Alors, il y a une première hypothèse, c'est que ce serait une erreur de la mémoire. En fait, on se souviendrait de quelque chose de très semblable qu'on aurait vécu et on n'arrive pas à avoir accès au souvenir et alors on a accès à ce remplacement du souvenir qui est une impression de déjà-vu. Il y a une autre explication. Le cerveau est une machine extraordinaire qui nous fait faire des milliers de choses. Il nous permet de bouger, de voir, d'entendre, de réfléchir, d'avoir des émotions, etc. Si on veut, par exemple, bouger un doigt, eh bien, il y a une série de cellules qui sont dans la tête au-dessus des oreilles. On appelle ça le cortex moteur. Et lorsque ces cellules se mettent en marche, elles permettent de bouger le doigt. Et puis, il y a un autre endroit du cerveau qui dit « Ah, j'ai envie de bouger le doigt ». Puis il y a encore un autre endroit du cerveau qui dit « Ah, je me souviens que j'ai bougé le doigt ». Ces différents endroits du cerveau, on peut voir chacun comme une petite machine qui fait une chose. On peut imaginer ça comme des câbles électriques, mais elles sont reliées entre elles. Alors, quand on active la région pour bouger les doigts, eh bien, il y a les doigts qui bougent. Et il se pourrait que le déjà-vu soit dû au fait que, dans une situation, il y ait une activation plus générale du cerveau. Par extension, une activation des machines de la mémoire. Et à ce moment-là, on dit « Ah, je me souviens avoir vu cette scène ». Mais en fait, c'est une extension de l'activité du cerveau. La plupart des gens ont des déjà-vus et c'est toujours quelque chose de tout à fait normal. Alors, c'est ennuyeux. En général, ça dure quelques secondes. Très rarement, ça dure plus longtemps que cela. Et c'est peut-être un prix qu'il faut payer pour l'extraordinaire machine qu'on a dans notre tête, à savoir notre cerveau. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas grave et ça ne signifie pas du tout que le cerveau fonctionne mal.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
C'était Jeanne Moreau sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter Les Petits Bateaux. C'était J'ai la mémoire qui flanche, premier jour des vacances. Qu'est-ce que vous allez faire? Des balades, ça c'est sûr, les arbres sont trop beaux. Peut-être même s'il fait bon dans votre région, vous allez camper.
Bonjour, je m'appelle Ève et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que il y a de plus en plus de personnes âgées dans les campings au fil du temps. Merci, au revoir.
Bonsoir Ève, c'est France Poulain qui va te répondre. France Poulain, vous êtes architecte urbaniste de l'État. De plus en plus de personnes âgées dans les campings, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai. Bonsoir tout d'abord. C'est vrai parce que la société, je dirais heureusement, vieillit. Et donc le papy-boom va se retrouver également dans le terrain de camping. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, on a une progression de plus en plus forte des personnes qui sont arrivées à l'âge de la retraite et qui donc ont plus de possibilités d'avoir du temps libre. Alors bien sûr, la difficulté et la question qu'on peut se poser, c'est le camping est une pratique sociale, une activité de plein air qui se déroule dans la nature pour les personnes qui ont un travail. Puisqu'on a bien l'opposition, temps de travail, temps libre. Et si je ne travaille pas, je ne peux pas avoir vraiment de congé payé pendant lequel je pars. Le camping jusqu'à présent, qui est une pratique donc qui a environ 110 ans, était lié à une génération, à des générations, 4-5 générations qui ont tout le temps travaillé. Et on avait une espérance de vie qui était relativement peu importante. Et puis des deniers, en fait, quand vous passiez à la retraite, qui faisaient que vous ne pouviez pas acheter une résidence secondaire en plus. Aujourd'hui, les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, d'abord, sont en bien meilleures conditions physiques, ont plus de patrimoine personnel et ont connu le camping. Et elles souhaitent disposer d'un endroit pour pouvoir passer des vacances, mais des vacances très prolongées. Donc c'est vrai que Ève, qui va aller dans un terrain de camping, va rencontrer de plus en plus de personnes âgées.
Mais qui peuvent y passer quoi? Un mois? Deux mois? Non.
Alors, on a aujourd'hui 1 million de places dans les terrains de camping. Il y a à peu près 10 000 terrains de camping en France. 1 million d'emplacements. Il y en a 60% qui sont loués à l'année. C'est-à-dire que 60% sont loués le 1er janvier par des, en fait, tout simplement des contrats de personnes qui louent une parcelle et généralement ont acheté un mobil-home pour le mettre dessus. Et donc, en fait, ça veut bien dire qu'on a aujourd'hui une pratique. Si le terrain de camping est ouvert à l'année, on peut avoir des personnes qui vont y passer 365 jours. Et qui vont potentiellement, eux, ne pas être dans la précarité, mais tout simplement, ils auront fait un choix en arrivant justement dans une période qui est celle de la retraite, d'avoir un habitat qui est plus petit, qui est plus confortable que leur maison, qui peut être de très grande dimension, qui va avoir la climatisation, qui va être entièrement neuf, qui va être sur un seul étage. Et ils vont simplement avoir 70-100 mètres carrés de jardin à entretenir, plutôt que des fois 1000 ou 2000 mètres carrés.
Et des voisins.
Et des voisins qui ont le même âge qu'eux, qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Et donc, il va y avoir une convivialité qui va se créer. Alors, bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est que jusqu'à présent, on avait donc des terrains de camping, sachant qu'on est le premier pays au monde pour le nombre de terrains de camping.
Ah, je ne savais pas. La France ?
La France. Ouais. Deuxième pays au monde sur le nombre de pratiquants, après les États-Unis. Donc, on avait vraiment l'alter ego de la ville, qui était le camping, pour les personnes qui travaillaient, pour qu'elles puissent se détendre. Dès lors qu'on va avoir beaucoup de personnes qui ne travaillent plus, qui vont se trouver dans les terrains de camping, que ce soit parce qu'ils ont arrêté leur temps de travail de manière naturelle à la retraite, ou parce qu'ils sont dans la précarité, parce que ça arrive aussi, où vont aller les personnes qui travaillent et qui, jusqu'à présent, trouvaient leur congé, leurs vacances dans ces espaces de loisirs.
France Poulain a écrit « L'esprit du camping », c'est édité chez Cheminement, c'est un livre qui date de 2005. Depuis le livre de France Poulain et depuis le film Camping, les choses ont certainement explosé. Nous nous quittons, mais nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Vous pouvez bien sûr venir faire un tour sur le site des Petits Bateaux. Vous y trouverez des renseignements intéressants. Vous pouvez, pour la modique somme de 6,80€, acheter notre livre Les Petits Bateaux en format poche. Merci à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Alexandre Chenet. Merci à Marjorie de Voucou, Eliane Girard, Noël Bréham. Je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle, mon petit loup.